Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Éric Dupond-Moretti.
Merci. Bonjour madame, bonjour messieurs.
Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger. Marion Mourgue du Figaro, bonjour Marion.
Bonjour.
Et Adrien Gindre, TF1 LCI, bonjour. Bonjour Adrien. Cette émission est bien sûr en direct. Vous pouvez interpeller le ministre avec des questions à son intention. Elles lui seront relayées en fin d'émission avec le hashtag Grand Jury. Eh bien, Marie-Pierre Haddad les relaiera au ministre. Alors Éric Dupond-Moretti, il y a encore quelques mois, l'avocat que vous étiez était un habitué des jurys populaires. Vous voilà pour la première fois devant un jury d'un autre type, ni juge, ni avocat, ni accusateur, mais devant des journalistes pour tenter de mieux comprendre votre conversion à la politique et les réformes que vous avez impulsées depuis votre nomination comme garde des Sceaux en juillet dernier. À votre crédit, Éric Dupond-Moretti, une augmentation du budget de la justice jamais vue depuis 25 ans, 8%, pour tenter notamment d'en accélérer le rythme de cette justice. Un rythme aujourd'hui si lent que les Français ne lui font plus confiance. Comment retisser ce lien abîmé? Nous en parlerons dans cette émission. Mais votre arrivée surprise place Vendôme, Éric Dupond-Moretti, a aussi coïncidé à une reprise des hostilités entre votre ministère, vous donc, et les magistrats de ce pays. Le jour même de votre désignation, ils ont évoqué une déclaration de guerre. Vous le leur avez bien rendu en dénonçant quelques semaines plus tard leur corporatisme, leur entre-soi, leur frilosité à se moderniser. Alors, comment apaiser ces relations? N'est-ce pas la condition même de votre réussite à ce poste? Et au-delà, à votre greffe dans le monde politique, si tant est que vous souhaitez qu'elle s'impose sur le long terme, vous qui vous définissiez en 2015 dans une interview à la Tribune comme anarchiste.
Épicurien.
Épicurien et anarchiste, c'est l'une des questions que nous allons vous poser. Nous commençons toujours tout de suite avec Marion Mourgue.
Certains imaginaient que vous n'alliez tenir que 2 mois au gouvernement. On est à presque plus de 7 mois. Est-ce que pour ça, il a fallu renoncer à certaines de vos convictions et à votre liberté de ton?
Non, pas du tout. C'est un autre costume, ça je le concède. C'est peut-être un peu plus d'attentisme. Quand vous êtes avocat, au fond, si je suis votre avocat, je vous défends vous. Et c'est le seul intérêt qui me préoccupe. Et si je suis garde des Sceaux, ce qui me préoccupe, c'est l'intérêt général. Donc ça n'est pas forcément la même expression, mais c'est toujours la même conviction.
Est-ce que ça ne va pas assez vite pour vous? Est-ce que c'est ça que vous avez découvert aussi à votre ministère, à ce ministère? Est-ce que vous dites que quand on prend une décision, eh bien on a du mal à la faire appliquer rapidement?
Ah, moi, je ne peux pas dire ça parce qu'on a fait plein de choses.
Et on va en parler. Et on va en parler. Mais vous n'avez pas ce sentiment-là?
Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Non.
D'accord.
Est-ce que ça veut dire, en revanche, parfois, mettre certaines de vos convictions personnelles de côté? On est dans un gouvernement où il y a beaucoup de personnalités de droite et qui le revendiquent à Matignon, à l'économie, à l'intérieur, à la culture. Est-ce que vous, vous vous considérez comme un homme de gauche de ce gouvernement?
C'est plutôt ma sensibilité, mais si j'ai adhéré à la Macronie, au macronisme, c'est que justement ces clivages-là ont disparu. C'est des habitudes surannées, tout ça. On ne se reconnaît plus là-dedans. Moi, une bonne idée de droite, si vous voulez qu'on rentre dans ce schéma caricatural, c'est d'abord pour moi une bonne idée.
Comme laquelle, par exemple?
Et une mauvaise idée de gauche, c'est pour moi une mauvaise idée. Moi, je suis un pragmatique, je veux être pragmatique.
Et vous n'avez jamais eu besoin de mettre de côté certaines convictions personnelles depuis que vous êtes au gouvernement?
Non, je vais vous donner un exemple. Je souhaitais le rapatriement des Français en Syrie pour qu'ils soient jugés en France. On m'a expliqué, et j'ai été convaincu, qu'il y avait des accords diplomatiques qui avaient été trouvés, que c'était compliqué. Et puis parler des sujets, quand on ne les connaît pas et qu'on ne les mesure pas complètement, c'est une vraie facilité. Quand on les comprend, quand on les connaît, la difficulté pour nos services, par exemple, d'aller chercher ces Français... Tout ça, vous voyez, fait que vous mettez beaucoup de réflexion dans ce qui peut être une réaction initiale. Voilà ce que l'on apprend aussi au gouvernement. Et puis, il y a une forme de solidarité, bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ma parole est totalement libre.
Et par exemple, sur les visioconférences, certains avocats se disent, comment se peut-il qu'un ancien avocat ait accepté que les procès puissent être en visioconférence? Ça vous est reproché. Est-ce que sur ce sujet précis et technique. Est-ce que c'est une conviction que vous partagiez avant et que, sur laquelle vous n'êtes pas assise?
Et qui a été retoqué par le Conseil d'État, visioconférence que vous aviez proposée il y a quelques mois pendant la crise sanitaire.
Alors, si vous voulez être tout à fait complet, il faut dire que le Conseil d'État l'avait avalisé dans un premier temps. Et c'est une autre section du Conseil d'État qui a dit le contraire de ce qu'avait dit initialement le Conseil d'État. On va quand même le rappeler.
Bon. Ils se sont contredits.
Voilà. C'est leur droit. Ce n'était pas les mêmes sections, mais rappelons-le tout de même. Ben, voilà, typiquement, ce qui est l'intérêt particulier soutenu par certains avocats. Je dois dire, pas tous d'ailleurs, parce que certains avocats de victimes m'ont dit « Nous, on souhaite que les procès continuent. Bon. » Et puis vous, vous êtes confronté à une réalité qui est celle de l'investissement des magistrats, des greffiers, du personnel, le nombre de victimes, etc. Et vous souhaitez que les procès se prolongent. Alors, c'est facile d'être dans la critique, voire parfois dans le nihilisme, c'est très très simple. Dans la construction, c'est plus difficile. Je ne renie pas ces choix qui ont été les miens. Mais, pour tout vous dire, je comprends qu'un certain nombre d'avocats aient protesté. Je l'entends.
Mais quand on est garde des Sceaux... Cette idée vous a été soufflée, ou on se dit, tiens, cette idée lui a peut-être été soufflée par ses services. Est-ce que c'est venu de vous? Moi, je me pose spontanément la question, je me dis, Éric Dupond-Moretti, qui était avocat, il aurait peut-être pas aimé qu'on lui impose cela.
Éric Dupond-Moretti, avocat, il aurait peut-être pas aimé, mais Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, il s'est dit, mais comment on fait pour que la justice continue?
Mais Éric Dupond-Moretti...
Est-ce qu'elle doit s'arrêter? Est-ce que le procès doit être renvoyé? Mais qu'aurait-on dit si on avait renvoyé un certain nombre de procès? Et si tel accusé, suspecté de terrorisme, avait été remis en liberté? J'ai des comptes à rendre aux Français. Que m'aurait-on dit? Donc, on a choisi. Le Conseil d'État nous avait dit oui, il nous a dit non. Et j'entends que les avocats disent ce qu'ils ont à dire. Ils protègent des intérêts particuliers. Moi, j'essaie de protéger l'intérêt général.
Et ça veut dire, Éric Dupond-Moretti, que votre regard, par exemple, sur la justice, sur la société, peut-être aussi, a changé depuis que vous êtes devenu ministre?
Non, mais vous souhaitez absolument que j'ai changé.
Non, on souhaite comprendre où vous en êtes aujourd'hui, après 7 mois, parce que vous n'étiez pas... on l'a dit tout à l'heure, c'est votre premier grand jury.
Et vous avez le droit de nous dire que vous n'avez pas changé, parce que beaucoup de politiques, vous savez, c'est un peu leur enfer,
nous disent tout le temps qu'ils ont changé. Je vais vous le dire sans chanter, je n'ai pas changé.
Vous n'avez pas changé.
Mais les fonctions ne sont pas les mêmes.
Mais parce que je disais en introduction que vous étiez anarchiste. Je vous cite en 2015 dans une interview vraiment très intéressante, très longue, très dense... à la tribune, face à l'alternative de l'ordre et de l'injustice, le professionnel politique et l'avocat adoptent des positions antagoniques. Le premier, donc le professionnel politique, choisit l'ordre. Le second combat l'injustice. Il m'apparaît compliqué d'être dans la construction de quelque chose. Je me sens avant tout anarchiste.
Mais je ne renie rien de cela. J'étais avocat totalement libre. C'était une fois encore, je le répète, pardon, une liberté qui était mise au service d'intérêts particuliers. Bien. J'ai accepté d'être ministre. En acceptant cela, il y a une fonction, naturellement, qui est celle de la protection de l'intérêt général, je le redis, pardon, pour la troisième fois. Et donc, évidemment, la fonction change, et les choses ne sont plus les mêmes. Vous pouvez l'entendre.
Oui, et est-ce que vous pensez toujours que, dans cette même interview, vous disiez « La France n'est plus le pays des droits de l'homme ». En 2015, vous disiez ça,
oui.
Éric Dupond. Parce que, et vous disiez, même heureusement qu'il y a la Cour européenne qui sanctionne régulièrement les pratiques de notre institution. Est-ce que depuis votre retour, depuis votre arrivée, vous dites « Bah, voilà, la France est redevenue le pays des droits de l'homme ».
Vous savez, il y a un certain nombre...
C'est une accusation forte, dure.
Mais attendez, je vais vous répondre. Il y a un certain nombre de choses que j'ai critiquées. Vous en faites votre nectar à cet instant. Vous avez sans doute raison. C'est pas parce que je suis devenu ministre que ce que je critiquais, je l'ai trouvé magnifique. La France, sachez-le, est un pays condamné et condamné souvent. Pour les conditions indignes de sa détention, notamment.
Ouais.
Où on voit, dans un certain nombre d'arrêts, les mots de inhumain, de dégradance, d'insupportable. La France est régulièrement condamnée, monsieur Sportouche, pour le caractère inéquitable de son procès. C'est pas parce que je suis devenu garde des Sceaux que tout cela, je l'ai sorti de ma mémoire. Au contraire, ça me donne une légitimité pour appréhender ces choses et pour y travailler.
Alors justement, sur les prisons, c'est un sujet sensible et récurrent. Adrien Gindre.
C'est un sujet de difficulté parce que c'est un sujet dans lequel la surpopulation continue, se poursuit. Il y a eu un engagement qui a été pris de construction de places de prison. Là encore, vous aviez dit par le passé que vous préfériez qu'on construise des écoles. Cette surpopulation carcérale, aujourd'hui, est-ce que vous estimez avoir des résultats satisfaisants?
En termes de surpopulation, mais pas du tout. Et j'y travaille. Je veux d'abord qu'on applique davantage le bloc peine. Je veux ensuite que l'on privilégie les mesures alternatives à la prison, chaque fois que c'est possible. Je veux d'abord tenir un petit discours d'ordre général, si vous m'y autorisez. La prison est un mal nécessaire. Elle a pour but d'abord de punir. C'est indispensable. Elle a pour but de mettre à l'abri de la société que nous représentons des individus dangereux. Mais elle a aussi pour vocation de réinsérer. On en reparlera si vous le voulez.
Et elle le fait suffisamment aujourd'hui ?
Non, pas suffisamment, et j'entends le développer. Oui. Et on ne peut pas parler de la prison sans envisager ces trois aspects. La difficulté, c'est que la prison est vue dans notre pays de façon très manichéenne. Comme d'ailleurs le garde des Sceaux. C'est ou tout laxiste ou tout répressif. La prison, il faut en parler autrement. Il faut parler autrement des agents pénitentiaires. J'entends, moi, revaloriser leur action.
Mais est-ce que vous allez poursuivre la construction des prisons, Éric Dubon ? Parce que là aussi, vous disiez qu'on préférait construire des prisons plutôt que des écoles, oui. Et vous le déploriez.
Oui, d'abord, c'est une formule que j'ai empruntée à Victor Hugo, ce qui n'est tout de même pas rien.
Que vous citez, très régulièrement. Mais il y a un plan de développement et de livraison de places de prison, juste pour le chiffre, hein. 8 000 ont été lancés, il doit y en avoir 15 000 d'ici 2027. Est-ce que vous gardez des
7 000, non. Peut-être toujours très attentif avec les chiffres, n'est-ce pas ? Qui que l'on soit. 7 000 ont été lancés, il y a un programme de 8 000 qui est en cours, on est en train de signer, on cherche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le garde des Sceaux souhaite incarcérer plus ?
Oui.
Non, il souhaite incarcérer plus dignement. Et ce que j'entends vous dire, c'est que le personnel pénitentiaire que je rencontre régulièrement me dit exactement la même chose. Nous ne pouvons réinsérer que si les détenus sont gardés dans la dignité. Ce n'est pas une faveur que l'on accorde aux détenus, M. Sportouche. C'est un pari sur l'avenir, parce que ces hommes, un jour, ils retournent dans la société civile. Mmh. Et moi, je souhaite, je veux, j'appelle de mes voeux et de toutes mes forces qu'ils retournent dans la société civile meilleurs qu'ils n'y sont rentrés.
Vous êtes sûr que vous pouvez être entendu par les Français quand une majorité d'entre eux sont aujourd'hui pour la peine de mort. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui vous ébranle ?
Mais monsieur, moi je crois en l'intelligence de nos compatriotes. La question, elle est claire. Et je la pose clairement. Quand un homme sort de détention, si c'est une sortie sèche, non accompagnée, la récidive est plus souvent, bien plus souvent, au rendez-vous que si on a pris un certain nombre de précautions. Je suis allé cette semaine, si vous me laissez deux secondes, à Oningen, en Alsace. Emmaüs amène des meubles qui sont des meubles abîmés. Ce sont les détenus qui les réparent. Ils reçoivent une formation diplômante, c'est extrêmement important. Quand ces meubles sont restaurés, ils sont revendus par Emmaüs. Un des patrons d'Emmaüs m'a dit, voyez-vous, monsieur le ministre, ici, on ne restaure pas que des meubles, on restaure aussi des hommes. Ils sortent diplômés et ils sont pris en charge à la sortie. Est-ce que les Français, puisque vous m'interpellez de cette façon, ne vont pas comprendre que ça, c'est mieux qu'une sortie sèche ?
Bien, nous le verrons. Quand vous aurez... nous le verrons. Votre message est passé en tout cas. Nous passons à l'actualité de la semaine. La loi confortant les principes de la République, son examen s'est terminé hier. Elle doit être votée mardi par l'Assemblée nationale. Marion Mourgue.
Est-ce que vous avez, dans le prolongement de cet examen texte, regardé le débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen ? Est-ce que vous auriez qualifié, comme Gérald Darmanin l'a fait, Marine Le Pen d'un peu trop molle ? Est-ce que c'est le terme que vous auriez utilisé ?
Madame Mourgue, sachez que je ne suis pas un spécialiste de la mollesse. En revanche, s'il y a quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher, voyez-vous, c'est les chiffres. Alors je me dis, bon... Une première inexactitude, tout péché miséricorde, c'est une erreur. Ça peut arriver à tout le monde. Une deuxième, c'est un petit manque de compétences. Une troisième, c'est peut-être qu'on est un peu menteur.
Il n'a pas dit qu'elle était pas rigoureuse, il a dit qu'elle était molle.
Non mais moi, je vous dis ce que j'ai vu. Vous me demandez quel est mon sentiment à la suite d'une émission que j'ai regardée. Bon. Et je vous dis qu'à la fin, quand tous les chiffres sont faux, c'est... une menteuse incompétente. Tous les chiffres, et pas rien, hein, c'est du 200-300 000 d'écart, etc. tous les chiffres qui ont été annoncés sont faux. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les échanges que j'ai eus avec Mme Le Pen, puisqu'elle m'a consacré 35 minutes de son discours de Fréjus.
De rentrée. Mmh.
J'étais Taubira Empire.
Mais chacun cherche.
Attendez, attendez, madame. Non, mais je vais vous répondre encore une fois sur les chiffres. Nous avions libéré, ma prédécesseur, 13 000 criminels de grande envergure. Bah, c'est faux.
Au moment du confinement.
Je lui ai répondu à l'Assemblée nationale, d'ailleurs en soulignant que j'étais ravi de la rencontrer parce que je ne l'y vois jamais. Les 13 000 en question, parce que là on fait peur aux Français, c'est un programme. Vous voyez, le programme du Front National, vous me branchez sur cette question, je voudrais répondre. C'est un programme. Samuel Épinière, son ADN, c'est la peur.
Donc ce n'est pas un programme mou.
La peur de l'autre,
Marine Le Pen.
Fiche de ce qualificatif. Moi, je vous dis que
ça
j'ai vu...
Ça n'a pas d'importance à voir ce que vos collègues disent du Rassemblement National, Éric Dupond-Moretti.
Est-ce qu'un danger de la République, comme vous le présentez, peut être mou? Est-ce que ce n'est pas contre-productif, ce qu'a fait Gérald Darmanin?
Arrêtez avec ces petits chicayas sémantiques. Moi,
vous
je vous dis que...
Vous êtes le premier à dire
que les
mots ont un sens.
Je vous dis que je vois une femme politique qui veut devenir présidente de la République, qui est incapable d'aligner des chiffres essentiels. Ces chiffres-là, c'est son ADN, c'est le fondement de son discours, c'est l'immigration, c'est la peur de l'étranger, etc. Elle en aligne je ne sais combien d'affilée, elle est chaque fois démentie. Ça pose quand même un problème de compétence, ou de travail peut-être. Mais s'agissant de mes chiffres, les 13 000, je veux y revenir une toute petite seconde, parce que c'est pour moi l'occasion de rectifier un mensonge.
13 000 libérés pendant le confinement.
Oui, non, mais elle dit 13 000 criminels, etc. Regardez le discours de Fréjus, je veux le dire à nos concitoyens. Il y a en réalité 6 000 qui ont été libérés. Il l'aurait été à la fin du confinement de toute façon. Il leur restait un mois de prison. Parmi ceux-là, il n'y a pas un violeur, il n'y a pas un terroriste, il n'y a pas un crime de sang. Ce sont des infractions de basse intensité.
Et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des récidivistes dans ceux qui ont été libérés ?
De basse intensité, c'est comme ça qu'on les appelle. Et les 6 000 autres, c'est 6 000 qui ne sont pas rentrés en prison par un mécanisme que l'on peut entendre, puisque nous savons qu'il y a eu moins de délinquance pendant le confinement. Vous voyez, quand on y met un peu de nuance, eh ben, les choses vont mieux, me semble-t-il, que de dire 13 000 criminels ont été libérés. Ça n'est que cela, le discours du Front National.
Vous aimeriez débattre avec elle, comme l'a fait Gérald Darmanin?
J'ai déjà débattu avec elle une première fois à l'Assemblée nationale.
Oui, mais pourquoi? Sur un plateau de télévision.
Mais pourquoi pas?
Eh bien, écoutez, l'invitation est lancée, et si possible, ce sera... Dans le grand jury, Adrien Jean.
On a appris également que Gérald Darmanin lançait la dissolution du groupuscule Génération Identitaire, classé à l'extrême droite. Est-ce que, de votre point de vue, ça relève là aussi du séparatisme? Est-ce que la dissolution, c'est le bon outil? Est-ce qu'on doit dissoudre de cette manière tous les groupuscules d'extrême droite ou autres?
Alors, deux choses à ce propos. On a beaucoup discuté le fait qu'il n'y ait plus dans la loi le mot islamisme radical, n'est-ce pas? Ah, on a dit, mais comment, il y a le discours des Mureaux, puis maintenant on parle des valeurs de la République. Hélas, il n'y a pas qu'un seul séparatisme. Il y en a d'autres. Et donc cette loi, d'ailleurs, elle n'est pas faite pour durer un an, deux ans, elle est faite pour les années à venir, les décennies à venir. Donc on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et moi je suis ravi que cette loi envisage les autres séparatismes. C'est le premier élément de ma réponse. Deuxièmement, c'est le ministre de l'Intérieur qui a la main sur ces questions, avec des recours possibles, vous le savez. Parce qu'en droit, les choses ne se font pas comme ça. Et dans notre pays, les choses ne se font pas comme ça. On n'est pas dans l'arbitraire. Il y a un contrôle juridictionnel, vous l'avez évoqué d'ailleurs dans votre question tout à l'heure. Voilà. Les identitaires sont des gens qui n'ont pas une envie folle du vivre ensemble républicain.
Voilà, sur le fond, c'est un bon outil, la dissolution. Vous y croyez? Parce qu'on entend aussi parfois certains critiquer la méthode en disant on va les dissoudre, ils vont se reconstituer différemment, sous une autre forme, un peu plus tard.
Et on ne pourra pas les identifier.
Non, mais j'entends bien, moi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui critiquent. Je ne veux pas dire qu'il y a 66 millions de procureurs, mais il y a beaucoup plus de gens qui critiquent que de gens qui agissent.
Ah oui. 66 millions de
procureurs. Vous m'accorderez, monsieur, que c'est plus facile de commenter que d'agir. Pendant très longtemps, on a entendu, il n'y a rien qui se fait. Il y a le discours des Mureaux, tout le monde dit c'est un merveilleux discours.
Discours du président de la République en octobre.
Discours du président de la République. Et puis naturellement, la logique politicienne reprend ses droits. Et les opposants ne peuvent pas rester là-dessus, sur cette bonne note, si j'ose dire, délivrée, légitimement d'ailleurs. Donc après, ça critique. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La dissolution d'associations qui ont des visées séparatistes me paraît une bonne chose.
Pardon, monsieur le ministre, mais vous disiez, Christophe Castaner dit, le Rassemblement national ce matin, il dit c'est un ennemi de la République. Une génération identitaire est un ennemi de la République. Est-ce que vous avez fait partie de ceux, il y a quelques années, qui souhaitaient qu'il y ait une dissolution du Rassemblement national ou une disparition ?
Ce que j'ai dit, c'est que ça n'était pas un parti républicain.
Mais pour autant...
Ce que j'ai dit, c'est que beaucoup de médias ont aidé Mme Le Pen à présenter son programme de dédiabolisation. Mais moi, je n'y ai jamais cru. Il y a une espèce d'ADN, je ne fais pas référence à sa filiation... Enfin, on va se rappeler quand même des propos qui ont été ceux de M. Jean-Marie Le Pen, condamné presque une vingtaine de fois pour incitation à la haine. Est-ce que l'on peut être condamné 20 fois pour des faits de haine raciale et être républicain ? Moi, ça me pose question. Je l'ai exprimé en son temps. Mais j'ai dit aussi, vous me l'accorderez si on regarde la totalité de mon propos, qu'il était trop tard pour intervenir.
Mais donc, vous...
donc Mme Le Pen est là.
Vous ne
dans le
pas
paysage
regretter.
Politique. Ouais. Mais moi, je ne crois pas à sa dédiabolisation.
Vous pensez qu'elle est comme son père ? Ça n'a rien à changer.
Bah,
et pourtant, il y a quand même 34% des Français qui ont voté pour elle à la présidentielle.
Oui, mais vous savez, moi, je distingue ceux qui ont voté pour elle et Mme Le Pen. Moi, je veux m'adresser aux électeurs du Front National. Je veux les convaincre, par exemple, qu'elle se trompe ou qu'elle ment sur les chiffres. Ça, c'est pas compliqué, vous voyez ?
Et vous dites Front National toujours, vous, pas Rassemblement National.
Oui, Front National, Rassemblement National, j'ai pas mis mes fiches au goût du jour, je regarde. Mais pour moi, c'est tellement proche, voyez-vous.
Mais non, vous ne pourriez pas...
Il ne suffit pas de changer une lettre pour changer d'état d'esprit.
Éric Dupond-Moretti, vous avez plusieurs fois parlé d'intérêt général depuis le début de l'émission. Vous ne pourriez pas, au nom de l'intérêt général, participer à un gouvernement de rassemblement qui irait à la droite de la droite, à la gauche de la gauche, comme on voit en Italie le gouvernement qui vient d'être composé, qui rassemble extrêmement largement.
Vous êtes formidable. Vous me rappelez les déclarations qui sont les miennes. Vous me rappelez mes convictions. Vous me rappelez comment viscéralement je suis opposé, non pas à Mme Le Pen, d'ailleurs moi j'ai rien contre Mme Le Pen, mais c'est son programme qui me chagrine. Je n'oublie pas que je suis fils d'émigré, vous voyez, ça a une certaine résonance. Et alors, à la fois vous me demandez ça, et en même temps vous me demandiez en début d'émission si je m'étais renié. Renierais-je ?
Ce serait un reniement.
Me renierais-je ? Si j'allais m'asseoir au Conseil des ministres à côté de Mme Le Pen, à votre avis ?
Je posais la question, mais je voulais faire la réponse.
Je pense que vous avez la réponse.
Donc vous nous dites oui, on répond pour vous si on a bien compris. Marion Mourgue, toujours sur la loi séparatisme et sur un point qui a été évoqué et qui n'a pas été voté par l'Assemblée nationale.
Et qui divise la majorité à laquelle vous appartenez désormais, c'est la question du voile et notamment du voile pour les mineurs. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes choqué de voir des jeunes filles porter le voile ? Toute jeune fille.
Écoutez, madame, d'abord, j'ai tenu des propos qui ont été totalement dénaturés. Totalement dénaturés. Quand j'ai dit que le voile pouvait être un asservissement, mais qu'il pouvait être aussi un choix, et vous vous souvenez, puisque vous avez évoqué l'émission, on voyait en fond d'écran la photographie de madame Ibaziaten, dont le fils est mort pour la France, est tombé sous les balles d'un terroriste. Cette femme porte le foulard. Qui oserait, si ce n'est peut-être Mme Le Pen, lui dire qu'elle doit l'enlever ? Je parlais des adultes, madame. Et que des adultes. Mes propos ont été dénaturés. On m'a parlé des enfants. Et ce que j'ai dit, c'est que ça n'était pas le lieu, pas le moment, dans ce projet de loi, d'évoquer cela. Nous avons un certain nombre de règles. Elles sont parfaitement définies sur le voile, sur les signes ostentatoires qui nous rappellent l'appartenance à une religion.
Donc pour vous, d'ailleurs, les textes sont suffisants aujourd'hui
mais
sur
oui,
cette question-là.
Mais oui, bien sûr.
Mais quand même, quand vous disiez que sans être frappé d'anathème, ai-je le droit de dire que le voile fracture le socle des valeurs communes qui fait société ? Jean-Michel Blanquin, l'année dernière, a dit spontanément, pour lui, le voile n'est pas souhaitable dans notre société. C'est en octobre 2019. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous pourriez le rejoindre ? Je viens de vous citer.
Monsieur, le
voile fracture le socle des valeurs communes qui fait société.
Mais je vous dis, peut-être avec davantage de nuances, que certaines femmes portent le voile par conviction, d'autres portent le voile parce qu'elles sont contraintes, d'autres d'ailleurs parce qu'elles adhèrent à l'islamisme radical. Je ne peux rien vous dire d'autre. Il y a par ailleurs une réglementation du port des signes ostentatoires de religion dans l'espace public. Mais ça n'était pas, me semble-t-il, le moment de l'évoquer dans cette loi sur les valeurs de la République.
Ça veut dire qu'il y aura un moment pour le faire? Tout le monde nous dit que ce n'était pas le moment. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un moment plus idoine pour le faire?
Non mais monsieur, je vous dis qu'il y a une réglementation, que la loi sur les valeurs de la République ne pouvait pas s'autoriser cette énième discussion. Il y a une réglementation qui n'est pas ancienne, et pardon de vous le dire, moi je considérais que nous n'allions pas à l'essentiel. D'autres ont voulu, en réalité...
Y compris dans le mouvement de la République En Marche.
Mais, monsieur, un mouvement politique, c'est des gens qui s'expriment librement aussi. Il y a plusieurs sensibilités. Vous me posez, c'est extraordinaire cette façon de faire... Vous me posez la question à moi et vous m'opposez l'opinion ou la sensibilité
non, que j'ai pas compris
de quelqu'un d'autre. Mais je vous le dis.
J'ai pas compris votre réponse à Brun. Est-ce que quand vous voyez une fillette dans la rue avec le foulard, est-ce que vous êtes interpellé? Est-ce que ça vous rend mal à l'aise? Est-ce que vous dites que ça peut lui nuire? Ça peut être toxique pour l'enfant ou c'est pas le moment de porter ce voile-là? Est-ce que
je
vous
me dis, monsieur, qu'il y a là encore une autorité parentale qui s'exerce et qui peut s'exercer avec les trois ou quatre sensibilités que je viens de décliner. Des gens qui ont envie parce que c'est un choix religieux et vous n'avez rien à en dire. Est-ce que vous êtes choqué quand vous voyez un gamin de 6 ans avec une kippa? Est-ce que ça vous choque?
Est-ce que ça ne vous choque pas? Qu'il n'y a pas besoin d'attendre la majorité pour se faire sa propre décision, son propre choix. Certains
mais
le disent.
L'autorité
disent,
parentale,
voilà, on l'autorité pas parentale. À imposer un.
Non, mais moi, je veux vivre aussi dans un pays de liberté.
C'est dit.
Ce qui me choque, en revanche, c'est de voir une petite fille totalement voilée. J'en ai vu, malheureusement, dans certaines villes qui sont des villes françaises. Et j'ai le sentiment, quand je vois ça, effectivement, qu'il s'agit d'un asservissement scandaleux et anormal.
Donc là, vous reconnaissez que c'est pas la même chose que de porter la kippa. C'est un asservissement si une petite fille est voilée.
Madame, il y a des choses qui sont signifiantes que je sache.
Que vous disiez.
Moi, je n'ai rien contre la religion juive. Je n'ai rien contre les musulmans, contrairement à ce que peut raconter Monsieur Mélenchon. Mais il y a un certain nombre de vêtements qui nous permettent de penser qu'on n'est pas dans l'islam. Qu'on est dans l'islamisme radical. C'est voilà, madame, ce que je peux vous dire sur cette question.
La question, en plus, tout de suite, elle porte sur l'aide médicale à
J'ajoute
mourir.
J'ajoute d'ailleurs que je trouve un peu dommage, pardon, mais c'est vous qui êtes les jurés de ce grand jury. Je trouve un peu dommage que vous ne m'ayez posé aucune question sur ce que nous avions fait au ministère de la Justice sur cette loi Valeurs de la République.
Vous en avez abondamment parlé, nous en avons abondamment parlé
sur
nos médias et avec différents interlocuteurs. La question en plus, elle porte sur l'aide médicale à mourir, on écoute.
Le grand jury, la question en plus.
Monsieur le ministre, bonjour. Benjamin Matuli, co-responsable des jeunes de la DMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors que la plupart de nos voisins européens ont déjà légiféré sur l'aide active à mourir, et alors même qu'en France, 4 propositions de loi ont été déposées à l'Assemblée nationale, dont l'une soutenue par près de 160 députés de la majorité, et qu'une autre proposition de loi est déposée au Sénat en ce sens, quand allons-nous avoir en France une loi de liberté qui respecte le choix du patient en fin de vie?
Quelle est votre intime conviction sur ce sujet, Éric Dupond-Moretti?
D'abord, je voudrais vous livrer cette confidence un peu intime. J'ai vu des proches qui ne sont pas morts dans la dignité. Je suis très très touché, très sensible à cette question. Et je voudrais y revenir, le moment venu.
Par un texte de loi ?
Je voudrais y revenir, le moment venu. J'y réfléchis beaucoup. Le calendrier législatif, il est contraint. On ne peut pas tout faire. On n'est pas seul. Vous le savez. Cette question me préoccupe.
La loi Leonetti ne suffit pas. C'est ce que vous dites aujourd'hui.
Monsieur, c'est pas comme ça que les choses se passent. Je vais vous dire. Il y a ce que je pense. Ce que pense l'homme. Il y a ce que le ministre pourra dire. Il y a un certain nombre d'arbitrages politiques. Vous le savez, c'est comme ça.
Oui, mais l'homme que vous êtes, non, c'est là où monsieur, on vous connaît comme étant celui qui ne cache pas ses convictions.
Mais qu'est-ce que vous voulez que donc je vous dise de plus que... Je me suis exprimé complètement là-dessus. Donc, je vous dis que, évidemment, cette situation me touche, que je connais bien comment fonctionnent les législations étrangères en la matière. pense à la Suisse en particulier.
Et au Portugal qui vient de voter
le Portugal,
le
absolument, absolument, je connais ces mécanismes. Je souhaite pouvoir avancer sur ces questions, y travailler, voilà tout ce que je peux vous dire.
Pour aller sur une, vers une loi sur l'euthanasie, est-ce que ça c'est envisageable dans notre pays?
J'ai l'impression que parfois je ne suis pas clair du tout. Vous savez, devant les autres jurys où je m'exprimais, j'avais parfois le sentiment d'être plus
clair. Mais ils vous posaient aussi des questions et ils cherchaient à vous comprendre aussi. Bon. Éric Dubon-Moutier, on fait une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury. À tout de suite.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, j'ai des nouvelles.
Des bonnes j'espère.
Ah bah non patron, désolé. Dès demain, les pommes de terre à chair ferme Origine France en filet de 2,5 kg sont à
1,79€. 1,79€ le filet de 2,5 kg de pommes de terre.
Ah oui, ça revient à 72 centimes le kilo. Je vous en prends un filet.
T'as plutôt intérêt à filer doux, hein.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 35-55, traitement antigerminatif après récolte, diverses variétés selon arrivage, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Prime Énergie, Ma Prime Rénov, crédit d'impôt. Vous avez un projet de rénovation énergétique, mais vous vous sentez perdu? Hello Elio. Elio s'occupe de tout pour vous. Travaux, gestion administrative, obtention des aides, vous n'avez rien à gérer et parfois même rien à avancer. Alors, hello les économies, hello la simplicité, hello Elio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur helio.com, H-E-2-L-I-O, ou appelez le 3220 et dites Helio. Service gratuit plus prix d'un appel. Conditions d'éligibilité et de ressources sur helio.com.
RTL. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Jean Castex veut resserrer la vis. Olivier Véran veut resserrer l'écrou. Et Jérôme Salomon veut resserrer l'étau. Faut-il délocaliser le gouvernement chez Bricorama? Eh bien, réagissez au 3210.
Ça fait la version parodique, mais l'original. 13h-14h30, du lundi au vendredi.
Sur RTL, Laurent Gérard vous fait sourire à 8h45 et Pascal Pro vous donne la parole dès 13h.
Comment vous dites, Laurent? 30-10?
50 centimes la minute.
RTL, il est 12h30. Nous retrouvons Benjamin Boucriche pour les informations. Bonjour Benjamin.
Bonjour Isabelle. Éric Dupond-Moretti tense Marine Le Pen. C'est une menteuse incompétente. Le programme du Rassemblement National, c'est la peur, juge le ministre de la Justice. Invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il considère aussi que tous les chiffres cités par Marine Le Pen lors du débat face à Gérald Darmanin sont faux. L'Union européenne va accélérer la procédure d'autorisation des vaccins, annonce ce matin de la commissaire à la santé. Nous avons décidé qu'un vaccin amélioré par un fabricant pour lutter contre les nouveaux variants n'aura plus besoin de passer par toutes les étapes d'autorisation, déclare la chypriote Stella Kyriakidou. Monaco durcit les conditions d'entrée sur son territoire pour les Français. Le Rocher exige désormais un test PCR négatif de moins de 3 jours pour tous les Français souhaitant entrer dans l'enclave. Ce test ne concerne pas les travailleurs frontaliers ou les écoliers. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 9h ce matin à Barcelone et dans toute la Catalogne. La province espagnole vote pour élire sa Generalitat, le gouvernement local. La Catalogne est dirigée depuis 10 ans par des partis indépendantistes, mais aujourd'hui, tous les yeux sont rivés vers le Parti socialiste. Le favori du scrutin est opposé à la sécession avec le reste de l'Espagne. Des dizaines de morts au Yémen, 16 personnes ont été tuées dans une attaque à Marib, dans le nord du pays. 21 autres sont blessées. Le pays est en guerre civile depuis plus de 6 ans. Les rebelles houthis dans l'ouest du pays sont soutenus par l'Iran et sont opposés au gouvernement, qui est lui soutenu par l'Arabie Saoudite. En football, on l'apprend à l'instant, le défenseur français Dayo Upamecano signe au Bayern Munich. Il vient de paraffer un contrat de 5 ans. Il était jusqu'à présent défenseur de Leipzig en Bundesliga allemande. La sonde Espoir envoie sa toute première image de la planète Mars. Cet appareil est envoyé par les Émirats Arabes Unis. Il est entré avec succès dans l'orbite de la planète rouge et il nous transmet à l'instant une image magnifique où la planète est à moitié éclairée par le soleil et à moitié dans l'obscurité. On peut aussi distinguer sur cette image le plus grand volcan du système solaire. Il s'appelle Olympus Mons et il est éclairé par la lumière du soleil tôt le matin. La météo, courage à tous. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de grand froid. Les températures de cet après-midi, 3 degrés à Lille, Amiens et Paris, 6 à Lyon, 7 à Marseille, jusqu'à 18 degrés à Biarritz. Côté ciel, ce sera voilé dans la majorité du pays, du nord à l'Île-de-France, jusqu'au massif central et au littoral atlantique. En Bretagne et en Normandie, il va pleuvoir dans l'après-midi. Quelques nuages sont à prévoir dans le golfe d'Ilion, sur la côte méditerranéenne de Perpignan à Montpellier. Dans l'est du pays, de la Corse en passant par la côte d'Azur jusqu'à l'Alsace, le soleil va briller. RTL, il est midi et 35 minutes et dans un instant, on retrouve la suite du grand jury d'Éric Dupond-Moretti présenté par Benjamin Sportouche.
Bonjour, c'est Yves Calvi.
7h, 9h30, RTL Matin.
Chaque matin de 7h à 9h30, toute la rédaction d'RTL vous informe. Des journaux complets chaque demi-heure et des reportages. L'économie enfin accessible avec François Langlais, l'invité d'Alba Ventura, toujours au cœur de l'actualité. Votre santé avec Michel Simès, les imitations de Laurent Gérard, les astuces du chef Lignac et bien sûr 30 minutes de culture avec Laissez-vous tenter. Alors rendez-vous demain.
Yves Calvi, RTL Matin. Jury RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie sur Trappes, la situation à Trappes.
Oui, parce qu'on parlait séparatisme il y a quelques instants. Là, pour le coup, ce professeur de philosophie, M. Le Maire, a dénoncé l'absence de stratégie de l'État pour vaincre l'islamisme. Il a expliqué être victime de menaces. Il a annoncé qu'il renonçait à enseigner, même s'il ne va pas quitter l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous y voyez là dans cette affaire précise, Éric Dupond-Moretti ? Est-ce qu'il y a une forme d'échec de la société de ne pas pouvoir empêcher que ces situations se produisent et qu'un enseignant vienne à dire qu'il ne veut plus, qu'il ne peut plus enseigner ?
Un peu de nuance d'abord, si vous me le permettez, et un propos un peu général. Le diagnostic de la ville de Trappes, l'État l'a fait déjà. Puisque vous savez qu'on parle, s'agissant de Trappes, de reconquête républicaine. Il y a un diagnostic. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Trappes, ça n'est pas que ça. C'est aussi des gens qui ne sont pas des islamistes radicaux. Ça n'est pas un cluster d'islamistes radicalisés. Il y a ce problème. Mais il y a des gens comme vous et moi qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui étudient, qui sont dynamiques, qui sont attachés aux valeurs de la République. Donc ça, il faut quand même le préciser, parce que la stigmatisation, la récente, à raison de l'actualité, ça va vite parfois l'actualité. Hein. Le temps médiatique, parfois, est plus contraint que le temps de la réflexion nuancée. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on a ? On a un professeur qui dit un certain nombre de choses qui l'engagent. Ce professeur, il est aujourd'hui protégé par la République. Et c'est bien normal.
Il a une protection rapprochée, policière.
Oui, et c'est ce qu'on lui doit. La République se doit de protéger ceux qui s'expriment. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais il dit un certain nombre de choses, il est protégé. C'est très bien comme ça. La République n'a pas failli à ses devoirs.
Sauf qu'un professeur est protégé par des policiers, Éric Dupond-Moretti, pardon, ça interpelle.
Deuxièmement, monsieur, il y a le maire de la ville qui dit lui aussi un certain nombre de choses, en opposition à ce que dit ce professeur. Il évoque lui aussi des menaces, il fait lui aussi l'objet d'une protection. Il y a ensuite une intervention dans une école, qui est une intervention qui est critiqué et contesté par le monde de l'éducation.
Parce que le maire est allé distribuer des
tracts, etc. Ensuite, il y a ce que dit le préfet. Moi, je n'ai pas autorité sur le préfet. Je voudrais vous dire une seule chose sur cette affaire de Trappes. Je voudrais que l'on retrouve toute la sérénité requise. Et j'appelle tout le monde à un peu de calme.
Mais ce n'est pas une affaire qui vous inquiète ou qui est pour vous le révélateur d'une situation qui doit nous interpeller.
Mais pourquoi on découvre à Trappes aujourd'hui, qu'il y a des difficultés, que certains quartiers posent problème ? Non. D'ailleurs, je vous l'ai dit, le diagnostic était fait puisque l'on parle de reconquête républicaine. Voilà. Et puis, je vais vous dire autre chose d'ailleurs. La loi sur le séparatisme, initialement appelée ainsi, devenue valeur de la République, permet aussi de lutter contre ces séparatismes, contre cet islamisme radical. Vous avez choisi l'angle du voile, qui est éminemment inflammable, polémique. On n'en a pas parlé à l'Assemblée nationale, ou très très peu.
Ça a fait débat quand même.
De façon totalement anecdotique sur 15 jours de débat. Moi j'y étais, pardonnez-moi, et j'y étais souvent. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour lutter contre les séparatismes. Et peut-être, mais ça n'est pas moi le président du grand jury, je n'en suis pas membre davantage, mais peut-être que nous pourrions aller sur ces sujets-là.
Mais nous allons y venir, enfin, nous en avons parlé, et encore une fois, dans votre majorité, c'est votre majorité qui a amené ce sujet et qui a été discuté et âprement. Mais sur ces territoires de la République qui sont pour certains en perdition, dit-on, une question Marion Maurer.
C'est une proposition de la défenseure des droits, Claire Hédon, qui souhaite créer des zones sans contrôle d'identité. Pour elle, ce serait une manière de lutter contre les discriminations. Ça vous paraît être une bonne proposition ou au contraire, on est dans le renoncement de la République ?
Je crois que ce qui est en cause, c'est le pourquoi d'un contrôle. Mais je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'on peut aujourd'hui demander à un gamin, par exemple, ça c'est nous qui l'avons voté, de s'éloigner d'un quartier. Comment on fait si on ne peut pas le contrôler pour vérifier qu'il respecte la mesure ? Je vous pose cette question, je la pose à Madame la Défenseure des Droits, par le truchement du grand jury. Ce qui compte, c'est de savoir pourquoi on contrôle. Contrôler un homme à raison de sa couleur de peau, c'est insupportable. Ça arrive. Le président de la République l'a dit. Moi, je préfère à cette mesure qui me paraît une mesure un peu illusoire. Mais je préfère la caméra piéton qui protège le policier quand il contrôle, s'il est accusé à tort. Et qui protège celui qui est contrôlé d'un contrôle abusif.
Il y a trop de discrimination dans notre pays.
Ne me faites pas écouter.
Non, mais le monsieur, président, est-ce que, comme vous disiez, ce n'est pas le pays des droits de l'homme. Oui, certains se sont dit, c'est parce que les gens sont aussi discriminés.
Je me suis placé
d'ailleurs fortement
sur
la couleur de leur peau.
Je me suis placé, pour le dire, sur le terrain de la jurisprudence de la Cour européenne. J'ai vécu comme avocat des bavures. J'ai défendu aussi des policiers. Donc je sais un peu de quoi. Il est question. Il y a parfois des policiers qui sont accusés à tort. Il y a parfois des gens qui sont contrôlés à tort. J'ai dit que la caméra piéton, je vous le redis, c'est un excellent instrument. Excellent instrument. Mais imaginez que l'on ne puisse plus contrôler un territoire. D'abord, comment va-t-on choisir ? Où est-ce qu'on va aller ? Quel territoire ? Un territoire privilégié ? Un territoire défavorisé ? Il y a là aussi une forme, peut-être, de discrimination dans le choix. Mais moi, je vais vous dire, on ne vit pas au pays des bisounours. Hein ? Donc voilà, vous me posez la question, je vous réponds clairement.
C'est votre réponse à Claire Hédon et elle est claire. Puisqu'on parle de caméra, une question quand même, puisque vous avez annoncé il y a quelques semaines, à la surprise générale, que vous vouliez filmer les procès, Éric Dupond-Moretti. Et on se dit à chaque fois, pour ceux, ou même ceux qui n'ont pas assisté à ces procès, que la justice doit se faire dans la sérénité. Est-ce que ce n'est pas une manière, si vous faites ça, et vous allez nous dire quand, de rendre chaque citoyen, de l'ériger en juge, et du coup, de ne pas rendre cette justice aussi sereine qu'elle doit l'être ?
Curieuse présentation des choses, mais au fond, cette question va me permettre de vous répondre. D'abord, filmer la justice, ça part de l'idée que dans une salle, il y a 300 places, elles sont pleines, j'ai vécu ce genre de procès, le 301e, il dit « mais pourquoi moi je ne peux pas aller regarder ce qui se passe ?» Je rappelle quand même, monsieur le président du grand jury, que la justice est rendue au nom du peuple français. Et que donc, il a un droit de regard sur ce qui s'y passe.
Oui.
Quand j'envisage de filmer, j'envisage de le faire sans qu'il s'agisse d'une filmographie trash.
Mais ça sera en direct ? Est-ce qu'on filmera des procès d'assises ?
Alors, mais sûrement pas.
Donc on ne verra pas ces procès. Comment ça va se passer ?
On les verra
après.
Oui.
Plus tard.
Bien sûr.
D'accord. Et quel sera le délai ?
Mais ça n'est pas encore arbitré, mais
parce
plus
que
tard.
Vous deviez arbitrer au mois de janvier. Vous nous aviez dit, vous avez dit dans une autre émission, vous dites, j'y verrai plus qu'un au mois de janvier.
Alors, je suis en plein j'y vois un peu plus clair au mois de janvier, mais ça n'est pas encore totalement arbitré. Bon. D'ailleurs, nous sommes en février, et donc c'est une évolution permanente, parce qu'on travaille. Bon, écoutez, monsieur, il ne s'agit pas du tout de parasiter le procès, premièrement. Il ne s'agit pas que les jurés, quand ils rentrent chez eux le soir, ils voient une espèce de film, etc. Il s'agit de faire attention, les témoins du mercredi ne doivent pas savoir ce qui s'est passé le mardi. Il faut prendre un certain nombre de précautions. Sur le droit à l'image, sur le droit à l'oubli, on a fait ça en réfléchissant très sérieusement à tout cela.
Mais
en revanche...
D'ici la fin du quinquennat ou c'est une réflexion pour plus tard dont on parle là ?
Non, j'aimerais porter ça au printemps. Mais en revanche, j'estime qu'il est extraordinairement utile que nos concitoyens voient comment fonctionne la justice.
Alors, autre sujet d'actualité, puisque vous l'avez annoncé cette semaine, portant sur les crimes sexuels contre les enfants, Marion Mourgue.
Vous avez décidé de fixer à 15 ans l'âge pour qu'il y ait non-consentement. Pourquoi ne pas avoir décidé tout de suite de fixer cet âge à 18 ans ?
Je ne comprends pas votre question.
Plusieurs associations le réclament, le droit au consentement. Éric Dupond-Moretti, si vous comprenez tout à fait. C'est-à-dire que certains disent que 15 ans, c'est trop jeune et qu'on ne peut être conscient de ces faits réellement et ne pas être sous influence avant ses 18 ans.
Bon, d'abord, je voudrais vous faire remarquer qu'il n'y avait aucun seuil. Quand cela, c'est un progrès considérable, que soulignent d'ailleurs un certain nombre d'associations.
Mais vu les débats en ce moment, on aurait pu décider tout de suite de dire 18 ans.
Non, je vais vous répondre complètement. C'est un sujet extrêmement important. D'abord, nous sommes dans un système dans lequel, aujourd'hui, je le rappelle, il n'y a pas de seuil. Le Sénat a discuté d'une proposition de loi qui est la proposition de loi Billon.
À 13 ans.
Cette discussion, évidemment, a été conçue il y a longtemps, mais il y a une actualité récente sur laquelle je ne veux pas m'arrêter, nous la connaissons tous. Le président de la République m'a demandé de recevoir toutes les associations dédiées à la protection de l'enfance, ce que j'ai fait. Nous avons pris vraiment le temps d'écouter les différents arguments. Il y a des consensus qui se sont dégagés, notamment le seuil et le seuil d'âge, 15 ans. Ça signifie qu'en deçà de 15 ans, moins de 15 ans, un agresseur sexuel, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ne pourra plus soutenir qu'il y a eu consentement. C'est une avancée extraordinaire. Et c'est vrai, je le précise ici, c'est important, pour le crime de viol, comme pour les atteintes sexuelles et les autres infractions qui sont des délits.
Mais est-ce que pour l'inceste, quand même, c'est plus particulier. Est-ce que certains vous disent que ce seuil doit être à 18 ans ?
Attends, monsieur, s'il vous plaît, vous me posez une question difficile, complexe, je voudrais y répondre précisément, allez-y, mais il faut, pardon, je vous le demande, que vous me laissiez le temps. Bien. Cependant, il faut faire très attention à ne pas criminaliser les amours adolescentes. Les amours adolescentes, c'est une jeune femme de 14 ans et demi qui a une histoire d'amour et une histoire sexuelle avec un garçon de 17 ans et demi. Est-ce que l'on peut concevoir sérieusement que quand ce gamin de 17 ans et demi a 18 ans et un jour, ils deviennent un criminel? Non, il faut être nuancé. Donc, il y a deux bémols. Le premier, c'est que l'auteur devra avoir connaissance de l'âge de sa partenaire ou de sa victime. Première chose. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un écart d'âge. Un type de 60 ans, pardon de m'exprimer avec familiarité, ne peut pas soutenir qu'il couche avec une gamine de 14 ans et demi consentante. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas eu de consensus sur l'écart d'âge. D'aucuns souhaitent 5 ans, d'autres souhaitent 6, d'autres 7. Là-dessus, nous y travaillons encore. Mais c'est une avancée extraordinaire.
Et ça entrera en vigueur quand, Éric Dupond-Moretti ?
Avril, vraisemblablement en avril. Mais je n'ai pas fini.
En avril, non, mais c'est pas rien.
Je n'ai pas fini.
Ça sera une loi en avril.
C'est une vraie modification. Mais ça n'est pas tout à fait fini. Pour l'inceste, nous souhaitons le seuil de 18 ans. Personne ne pourra dire si la victime a 17 ans, il était d'accord.
Donc vous répondez à la demande qui est faite notamment dans une pétition parue aujourd'hui dans le Parisien Magazine.
J'avais dit, monsieur, lorsque je me suis exprimé publiquement, que sur l'inceste, on continuait à travailler. Je vous fais part des choix qui ont été arbitrés par la chancellerie.
Mais il y a une des questions qui se posent aussi, c'est le caractère imprescriptible de ces crimes. Certains élus le demandent. Pourquoi ne pas avoir été jusqu'à ça ?
Mais attendez, je n'ai pas fini. Il y a un autre volet qui est la prescription. D'abord, on va expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est la prescription. C'est un délai au-delà duquel on ne peut plus juger les faits, même s'ils sont avérés, même s'ils existent. La prescription, elle existe depuis des milliers d'années. Les seuls crimes qui sont imprescriptibles, c'est les crimes contre l'humanité. Là-dessus, je peux vous dire qu'il n'y a aucun consensus entre les différentes associations. Et même au sein de certaines associations, il y a des divergences. Pourquoi ? Parce que certaines victimes ont besoin de la date butoir, au-delà de laquelle plus rien n'est possible, ça les décide, ça les incite. Le mécanisme, c'est il reste encore 2 mois avant la prescription, ben, je me lance et je vais dire ces choses. Je vais me libérer de ce poids insupportable. Et il y aura un procès. Je veux qu'il y ait un procès. Et d'autres victimes disent, mais moi, je souhaite dire les choses. Je souhaite me libérer. Mais je ne veux pas de procès et j'attends que la prescription soit acquise pour dire les choses. Et enfin, nous voulons aller, ça c'est une vraie nouveauté, vers une prescription graduée, on avait dit glissante, graduée, échelonnée, le mot n'est pas encore déterminé, mais en voilà le principe.
Ça veut dire que concrètement, qu'est-ce que ça donnerait de plus aujourd'hui pour les victimes ?
Rapidement, Éric Dupond-Moretti.
Ah ben oui, mais rapidement, ah ben non, mais c'est des questions difficiles.
Aussi, moi, vous
on ne peut pas
parler.
Faire du rapide là-dessus, alors. Parce que vous avez 4 affaires prescrites, commises par le même auteur. Donc 4 victimes qui n'auront pas droit à la justice. Puis vous avez une autre affaire commise par le même, celle-là n'est pas prescrite. Eh bien moi, je souhaite que les 5 affaires soient jugées et que les 4 victimes qui n'avaient droit à rien soient reconnues par la justice comme des victimes. Voilà, j'ai terminé. Pardon d'avoir été un peu long.
Non, mais écoutez, c'est assez clair. Éric Dupond-Moretti, j'en viens à la brouille que vous avez aujourd'hui actuellement avec les magistrats. J'en parlais en introduction de cette émission. 2 syndicats ont porté plainte contre vous pour prise illégale d'intérêt. Alors, je précise que ces syndicats vous reprochent, une fois devenu ministre, d'avoir ordonné à l'inspection générale de la justice de mener des enquêtes disciplinaires sur des magistrats dont vous ou vos clients à l'époque s'étaient plaints avant votre nomination au gouvernement. Je précise également que le 24 octobre, par un décret de déport, comme on dit au journal officiel, eh bien c'est le Premier ministre qui statuera sur cette affaire. Reste que vous pouvez être mis en examen devant la CJR pour cette affaire. Dans ce cas-là, que feriez-vous ? Est-ce que vous pourriez rester ministre ?
Je vais répondre à votre question. D'abord, vous vous souvenez que je suis nommé ministre depuis quelques heures, que des représentants de syndicats, et non pas, monsieur le président du grand jury, les magistrats, parce que je travaille au quotidien avec des magistrats.
Les syndicats représentent des magistrats. Les syndicats représentent des magistrats, ils ne pas qu'eux-mêmes.
D'accord, mais le distinguo mérite d'être fait, parce que les magistrats, c'est mon quotidien, je travaille avec eux.
Mais ils
mon
sont
cabinet, mon
des
cabinet est composé de hauts magistrats, je les rencontre toutes les semaines, je les ai au téléphone, je vais les voir. On travaille ensemble et on fait un certain nombre de choses sur lesquelles, d'ailleurs, vous ne m'avez pas encore interrogé, mais je ne désespère pas complètement que vous le fassiez.
Mais vous reviendrez.
Oui, mais attendez, c'est précision, parce qu'on ne peut pas, faire des raccourcis.
On vous écoute.
Bien. Et donc, ces syndicats, ces représentants de syndicats, quelques heures après ma nomination, ont parlé de guerre. Ah, vous l'avez tous entendu, ça. Bien. Et au fond, ils mettent en cause ma légitimité politique, peut-être même celle du président de la République. Or, il s'avère que ma légitimité, je la tiens du président de la République qui m'a nommé sur proposition du Premier ministre. Voilà ma réponse.
Donc vous ne démissionnerez pas.
Voilà ma réponse.
Mais
pourquoi vous n'êtes pas plus... Pourquoi ne me dire pas je ne démissionnerai pas ?
Je pense que je suis très clair.
Bon, à ce moment-là, donc parfois il faut dire les choses pour
chercher la petite dépêche AFP.
Pas du tout, je cherche que les gens le comprennent. Vous dites...
Je pense que les gens, ils ont compris. Vous n'avez
peut-être
pas compris.
Alors, peut-être pas moi. Mais
les gens
ça va
qui nous
mieux
écoutent,
en 10 ans.
Ils ont alors parfaitement compris.
Et est-ce que vous ne considérez pas, Éric Dupond-Moretti, vous dites les syndicats, que parfois il peut être nécessaire d'adresser des signes d'apaisement en direction des magistrats qui. Peut-être sont uniquement les syndicats qui sont concernés, mais qui ont montré une certaine sensibilité face à certaines de vos décisions, vues comme des provocations.
Mais dois-je vous rappeler, monsieur, que les premiers mots qui sont les miens lors de la passation de pouvoir, je dis que je ne suis en guerre contre personne, que ma porte est ouverte.
Et est-ce que la porte a été...
Elle est ouverte, monsieur.
Mais ils ne s'en sont pas emparés.
Elle est ouverte, monsieur.
Bon, eh bien écoutez, le message est à nouveau rappelé dans cette émission. Question express.
Le grand jury, question express.
Éric Dupond-Moretti, pour ou contre accorder l'agrément à l'association anticorruption Anticor, le délai courant jusqu'à vendredi ? Pour ou contre, hein ? Il nous reste 3 minutes dans cette émission.
Non, vous savez que c'est à la main du Premier ministre.
Mais vous, est-ce que vous...
Ah, mais je vais vous en dire...
Mais
je vais vous
non, en mais dire très non. rapidement, alors.
Mais très rapidement, mais enfin, c'est une association, d'abord de façon générale. C'est une association qui réclame un agrément... cet agrément lui permettant de déposer une plainte, d'initier l'action publique. Donc c'est un rôle de procureur de droit privé. Ça n'est tout de même pas rien. La contrepartie de cela, c'est que l'association qui réclame un tel droit, eh bien, doit rendre un certain nombre de comptes, notamment en termes de financement et en termes de transparence. Alors moi, je n'ai pas la main sur cette question. J'ai choisi que ce soit le Premier ministre.
Mais vous êtes favorable ou pas, vous ?
Mais monsieur, est-ce que je suis favorable ou pas ? Monsieur, ça n'est plus mon problème. Alors, c'est celui
joker,
du Premier
alors.
Ministre. Bon. Mais non, pas joker.
Bah, si.
Mais non, monsieur, bon. Mais non.
C'est pas à la main du Premier ministre, mais vous avez votre
conviction. C'est à la main du Premier ministre. Bon. Mais si vous me laissez terminer sans m'interrompre, je vais vous dire deux ou trois choses. Parce que comme vous, je lis la presse. Et qu'est-ce que je constate, monsieur ? Comme vous, je lis qu'il y a au sein de cette association Nordique des divergences et des difficultés et que certains mettent en cause l'impartialité. Comme vous, monsieur, j'ai lu qu'il y avait ou qu'il y aurait eu un ou des parjures devant la commission des lois. Comme vous, monsieur, j'ai lu qu'il y avait des dons fléchés. Vous avez bien compris ce que je dis pour envisager des poursuites contre personnes dénommées. Eh bien voilà, quand on est garant autoproclamé de la morale publique, on a peut-être des comptes à rendre. Voilà ce que j'ai à vous dire.
Alors, question express, ça sera le deuxième item et pas plus.
On parce que c'est oui ou non, si j'ai bien compris.
Et c'est ça, pour ou contre la proportionnelle aux prochaines législatives, Éric Dupond-Moretti. Bah, écoutez, ça mérite...
extraordinaire.
On arrive à question nette et aux questions des internautes.
Oui, c'est ni oui ni non. La proportionnelle, elle est utile pour une meilleure représentation, meilleure représentativité. En même temps, ce n'est pas le scrutin qu'a choisi le général de Gaulle. Si vous souhaitez que nous ayons les mêmes équilibres que ceux d'Israël ou de l'Italie qui n'arrivent pas à former une majorité claire, et puis je vais vous dire une dernière chose, le président de la République s'est engagé sur cette question. Voilà, j'ai répondu.
Éric Dupond-Moretti, candidat aux législatives en 2022, pour ou contre ?
Aux législatives ?
Oui.
Ou au régional,
si non. Ou au régional.
Écoutez, même départemental, on est très ouvert.
Pourquoi pas ? J'envisage de jouer le rôle qui sera le mien.
C'est-à-dire que vous serez candidat dans les Hauts-de-France ou en PACA, comme on l'a dit ?
Non, je ne pense pas que je serai candidat, mais je pense que j'irai aider le candidat et dire ce que j'ai à dire, notamment sur ce que nous avons fait, parce que ce n'est pas possible de le dire ici.
Et donc pour quelle élection ?
Donc sur une liste ou
régionale, je vous ai dit que j'irai sans doute dire quel est notre bilan. Moi, c'est ça
d'accord,
qui m'intéresse.
Vous irez soutenir des candidats. Hein ? Question nette.
Le grand jury. Question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour, alors l'histoire de Roland a beaucoup touché les internautes cette semaine. Sa maison à Toulouse a été squattée pendant 5 mois. Et c'est grâce aux voisins et aux réseaux sociaux qu'il a pu reprendre possession des lieux. Est-ce qu'il n'y a pas eu un échec, d'après vous, de la justice dans cette affaire ? Les gens, au final, ont été obligés de faire justice par eux-mêmes. Est-ce que ça vous a choqué ?
Bien sûr que ça m'a choqué. Et je voudrais dire à ce monsieur que ça ne serait plus possible aujourd'hui parce que les choses ont été modifiées.
Autre question.
Et que nous avons pris en considération cette affaire absolument malheureuse, invraisemblable. Ben vous avez des gens qui ont économisé toute leur vie, qui ont un appartement, une maison, et puis c'est squatté, ils ne peuvent plus utiliser leurs biens. C'est parfois d'ailleurs des gens modestes, mais ça ne changerait rien s'il en était autrement. Mais non, ça n'est plus possible aujourd'hui. Des précautions législatives ont été prises pour éviter ce genre de situation scandaleuse.
Autre question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, la parole se libère sur les réseaux sociaux avec les témoignages, notamment pour dénoncer les violences sexistes, sexuelles et homophobes. Il y a eu MeToo, le mouvement MeToo, MeToo inceste, MeToo gay, dernièrement aussi Sciences Sport. Vous mettez en garde sur le fait que la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous gêne de voir ce genre de témoignages qui sont publiés notamment sur Twitter et Facebook ?
Mais pas du tout, parce que je comprends que c'est difficile de raconter que l'on a été victime. Il y a une forme de barrière, ça s'appelle la pudeur, ça s'appelle un tas de choses intimes, intimistes. C'est plus facile de le dire au téléphone. La libération de la parole, c'est un phénomène extraordinaire. Ce que je dis, c'est qu'ensuite, cette parole, elle doit être traitée judiciairement, parce que sinon, on est dans l'arbitraire de la rue. Et ça, c'est pas possible.
30 secondes pour une dernière question.
Oui, le maire Rassemblement National de Perpignan, Louis Alliot, a décidé de rouvrir les musées. Est-ce que vous prenez cet acte comme un cri d'alarme ou au contraire, pour vous, c'est juste un coup politique ? Sachant qu'il a été suivi aussi par un maire socialiste.
Coup politique.
Coup politique, vous voyez, vous jouez le jeu. Merci voilà. Éric Dupond-Moretti d'avoir été notre invité. Nous vous recevrons avec plaisir une prochaine fois d'ici la fin de la saison. Très bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.